Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
On a un salarié qui est en réanimation. On dit à un moment donné, on dit stop. Si on n'a pas de masque, on ne rentre plus travailler.
Les caissiers et caissières débrayent, pas suffisamment protégés. Deux cas dans le plus grand hypermarché Carrefour de France. Les salariés de Vitrolles exercent leur droit de retrait.
Comment mieux protéger les salariés qui travaillent, justement? La question ce soir au patron de la CPME, mon invité, juste après le journal.
Le Grand Est, toujours sous tension après l'Alsace, la Moselle. La directrice de l'hôpital de Metz-Thionville appelle au secours.
Si aujourd'hui je ne peux plus ouvrir de lit, que le même nombre de patients arrive tous les jours, je ne sais pas où je vais les mettre. Je suis dans une impasse.
Et aujourd'hui, de nouveaux transferts de malades ont eu lieu vers l'Allemagne et vers la Suisse.
Et on va justement s'intéresser à l'exemple allemand, nos voisins.
Oui, beaucoup moins de morts et beaucoup plus de tests de dépistage. Comment font les Allemands? Nous irons à Berlin. Dans ce journal aussi, les risques de la chloroquine, des complications chez des patients qui en ont pris chez eux.
Oui, Ève Roger nous expliquera tout ça dans les grandes voies à 18h30. Et puis, il continue de régler ses comptes avec l'équipe de France de football. Karim Benzema s'en prend à Olivier Giroud.
Ça va être vite fait, les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1.
Voilà, ça vole très haut, bataille rangée sur les réseaux sociaux. La bourse de Paris en légère hausse ce soir, plus 0,6% à 4378 points.
Bonsoir Anissa, avec vous peut-être le retour du soleil?
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Oui, le soleil y revient demain et ça se calme dans le sud parce que ce matin on a eu de très fortes chutes de neige dans le sud-ouest. Ça se calme demain avec un ciel toujours très nuageux, mais le temps reste sec. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Ils et elles font partie des héros de notre quotidien. Ils ne sont pas soignants, mais nous permettent de continuer à faire nos courses, de trouver aussi des produits dans les rayons. Les travailleurs du confinement, chauffeurs routiers ou encore employés de la grande distribution prennent eux aussi des risques. Aujourd'hui, ce sont les salariés de l'un des plus grands hypermarchés Carrefour de France qui ont débrayé à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Nathalie Chevance, vous êtes notre correspondante. Ils ont exercé leur droit de retrait parce qu'ils ne s'estiment pas suffisamment protégés.
Oui, à juste titre, car jusqu'à présent, les salariés n'avaient pas de masques fournis par l'enseigne, tout simplement parce que Carrefour n'en avait pas, les stocks étant réservés pour les soignants. Il a donc fallu bricoler. Depuis le début, les salariés viennent travailler avec leurs propres masques. Des vitres en plexiglas ont bien été installées devant les caisses, mais pour la distribution de gants ou de gel hydroalcoolique et la désinfection des locaux, là, les personnels estiment qu'il y a trop de défaillances, avec une multiplication de cas suspects ou avérés. Reda Longar est le représentant CGT du magasin de Vitrolles.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est 17 cas suspects et 7 cas avérés. Ça va très très vite. On a un salarié qui est en réanimation. On dit à un moment donné, on dit stop. Si on n'a pas de masque, on ne rentre plus travailler. Nous, on demande à ce que les chariots, les scanettes dans l'enceinte du magasin soient désinfectées toutes les heures, toutes les deux heures, au moins une fois par jour, ce qui n'est pas fait. Ce n'est pas fait dans les règles. Le ministère du Travail préconise un nettoyage, une désinfection spécifique des sols, des points de contact avec un produit détergent laissé sécher, rincé, ce qui n'est pas du tout fait dans les règles de l'art.
On est une source à virus.
Alors sur ce point, la direction du groupe explique qu'une désinfection a été réalisée jeudi dernier, ce que conteste la CGT car d'après le syndicat, cette décontamination n'a commencé qu'aujourd'hui. Quant aux masques, 2 millions ont été reçus et sont en cours de livraison pour les personnels dans tous les magasins et entrepôts Carrefour.
Nathalie Chevance en ligne de Marseille, la France qui manque de masques de protection et qui s'approvisionne désormais en Chine. C'est un pont aérien qui a été lancé, première livraison hier. Un second cargo a atterri aujourd'hui à Vatry en Champagne avec à son bord 10 millions de masques. 4 rotations par semaine sont prévues, la France en a commandé 1 milliard.
Et le gouvernement qui réunissait justement aujourd'hui les acteurs économiques par visioconférence, organisation patronale représentant la grande distribution, l'agroalimentaire, le secteur agricole, comment assurer la sécurité à ceux qui travaillent? On en parle juste après le journal avec François Asselin qui dirige la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Il participait à cette réunion.
Et on sait combien la situation économique des PME est difficile. Un fonds de solidarité a été créé. Elles pourront y avoir accès à partir de 50% de perte de chiffre d'affaires au mois d'avril. Le seuil a été abaissé, c'était 70% pour le mois de mars. Et puis il y a le chômage partiel massivement utilisé. 220 000 entreprises en ont fait la demande. Cela concerne désormais plus de 2 millions de salariés en France. L'État prend le relais pour payer les salaires, Emmanuel Duteil. Mais attention à ne pas en abuser non plus, c'est marginal, mais il semble que certaines entreprises en profitent un peu trop.
Oui, hein, on peut citer l'exemple d'une entreprise où tout le monde est passé à mi-temps au chômage partiel, mais où beaucoup de salariés continuent d'être à quasiment plein temps en télétravail. Et Didier Chenet, qui dirige le GNI, hein, qui regroupe des hôteliers et des restaurateurs, dénonce ces comportements.
Un tel comportement est inacceptable. Inacceptable, on ne peut pas aujourd'hui profiter d'une situation qui est suffisamment difficile. Le gouvernement, dans les mesures qu'il a prises, sont des mesures qui sont extrêmement importantes, qui permettent justement aux entreprises de ne pas licencier et de ne pas mettre au chômage définitif ses salariés.
En tout cas, sachez que vous risquez gros, tout écart est sévèrement réprimé. Le ministère du Travail vient justement de rappeler ce que l'on risque. Remboursement intégral, bien évidemment, des sommes perçues. Interdiction de bénéficier pendant une durée maximale de 5 ans d'aide publique en matière d'emploi ou de formation professionnelle. 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Le ministère du Travail appelle le personnel à signaler tout manquement à cette règle.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Il est 18h05 sur Europe 1, la suite du journal avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Et pour soulager les services de réanimation les plus saturés, les transferts de malades s'accélèrent. Après les 2 TGV médicalisés affrétés ce week-end, aujourd'hui 3 hélicoptères de l'armée ont été mobilisés. 6 patients ont ainsi été emmenés de Strasbourg vers des hôpitaux en Allemagne et en Suisse.
Et le Grand Est est toujours particulièrement exposé. Hein. On a beaucoup cité l'Alsace, notamment Mulhouse, mais l'épidémie s'étend et c'est maintenant en Moselle que les autorités de santé appellent au secours. Pauline Jacquot.
Oui, ce soir, l'appel à l'aide vient du centre hospitalier de Metz-Thionville. La direction parle aujourd'hui d'une situation extrêmement urgente. L'hôpital ne peut plus ouvrir de lits supplémentaires. C'est ce que craignaient les soignants. Ça y est, les capacités maximales ont été atteintes en réanimation. Depuis ce matin, 100 lits sont ouverts pour ces patients, alors qu'il est 93 sont déjà occupés et les autres le seront dans les prochaines heures, prévient le centre hospitalier de Metz-Thionville. Il faut que les autorités nationales, le ministère de la Santé nous aide, alerte la directrice générale Marie-Odile Saillard.
Si aujourd'hui je ne peux plus ouvrir de lit, que le même nombre de patients arrive tous les jours, peut-être plus, puisqu'on nous dit que nous ne serions pas encore au pic. Je ne sais pas où je vais les mettre, je suis dans une impasse. Nous devons absolument, impérativement, de manière vitale, transférer, je dirais, 12 patients par jour pour répondre aux besoins de la population et en particulier, je dis bien, j'insiste bien sur cette question des lits de réanimation.
1 à 2 patients par jour sont envoyés vers l'Allemagne. C'est très régulier, souligne la direction, mais ça ne suffira pas. Il faut accélérer les transferts vers d'autres régions françaises. Pour le moment, en ce qui concerne ce centre hospitalier régional de Metz-Thionville, il y a eu plus de transferts de patients vers l'Allemagne que vers d'autres régions françaises.
Les précisions de Pauline Jacquot. Tension également en Corse. Nous y serons dans le journal de 19h. Et le débat continue autour de l'utilisation de la chloroquine comme potentiel traitement. Débat qui n'est plus seulement médical, mais qui est aussi devenu politique. Hein. Marine Le Pen, par exemple, appelle à généraliser ce médicament. On sait que le gouvernement ne l'autorise qu'à l'hôpital sous condition et pour cause, car on découvre que des patients qui l'ont pris chez eux en automédication ont subi des complications cardiaques. C'est l'ARS de Nouvelle-Aquitaine qui alerte. Écoutez le docteur Gilles Osemi.
Nous avons été informés par des centres hospitaliers de quelques cas de troubles du rythme cardiaque graves en relation avec des automédications. C'est les remontées du médecin hospitalier. On voit un patient qui arrive avec donc une infection à Covid-19, vous savez qu'on peut le diagnostiquer. Et la deuxième chose, vous savez, quand quelqu'un fait une torsade de pointe, on pense la plupart du temps à une origine médicamenteuse. Donc il suffit d'interroger les personnes pour avoir l'utilisation du ou des produits et la manière dont ils les ont pris. Ils ont terminé aux urgences et puis dans un service de cardiologie. Voilà, les choses se sont pour l'instant effectivement bien passées et c'est heureux, mais il peut y avoir des issues qui sont moins heureuses, qui n'arrivent pas forcément jusqu'à l'hôpital. C'est quand même un élément d'alerte qui est extrêmement important pour nous. Il est de notre devoir de dire à la population, attention, ce produit pris indépendamment de toute surveillance est susceptible d'entraîner des effets secondaires potentiellement très graves, voire fatales.
Un propos recueilli par Stéphane Place. Et le docteur Jimmy Mohamed est avec nous comme chaque soir pour répondre à vos questions. Bonsoir docteur.
Bonsoir Sébastien.
Alors reprécisez-nous bien les choses. Pourquoi cela n'est pas anodin? Pourquoi cela peut être dangereux de prendre de la chloroquine? Et dans quelles conditions aujourd'hui ce médicament peut être utile?
Alors la chloroquine, c'est un vieux médicament qu'on utilise justement dans le traitement du paludisme et on pense que sous la forme d'hydroxychloroquine, le plaquénil, ça pourrait traiter le coronavirus. Attention, ce traitement peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, des arythmies sévères et le problème c'est que dans le protocole tel qu'il est proposé par le professeur Raoult, c'est qu'on doit l'associer à un autre antibiotique qu'on appelle l'azithromycine qui appartient à la famille des macrolides qui lui aussi peut augmenter le risque de troubles du rythme, ce qui veut donc dire que l'association des deux médicaments peut augmenter ce risque et par conséquent qu'il est impératif d'avoir une surveillance médicale stricte lorsque vous avez ce traitement, avant de commencer les médicaments, pendant et un petit peu après. Ce qui veut donc dire que vous ne devez absolument pas prendre ce traitement un petit peu à la volée sans avis médical. Vous vous exposez à des risques majeurs et d'autant plus que pour l'instant, ce médicament n'est pas disponible en ville. Il est inutile de le demander aux pharmaciens. Il n'y en a plus. C'est simplement pour les formes sévères, hospitalisées ou en réanimation.
Merci docteur Jimmy Mohamed, on va vous retrouver hein. D'ailleurs tous les jours sur Europe 1, ce rendez-vous, l'émission santé à 15h, Mélanie Gomez et avec nous le soir, toutes vos questions sur le hashtag Radio Ouverte.
Et on va maintenant s'arrêter sur le manque de tests de dépistage qui pose question depuis plusieurs jours maintenant en France. Et il est particulièrement intéressant de regarder l'exemple allemand parce que les chiffres sont frappants. En France, on réalise à peine 12 000 tests par jour. En Allemagne, c'est 6 ou 7 fois plus, 500 000 par semaine. Hélène Kohl, vous êtes à Berlin. Comment l'Allemagne y parvient-elle ?
Tout d'abord, l'Allemagne a commencé très tôt à tester sa population dès la fin janvier. C'est ici à Berlin que le tout premier test a été mis au point. Avec un mode d'emploi très clair, à grande échelle, on teste tous ceux qui pensent avoir des symptômes et aussi toutes les personnes avec lesquelles il y a eu contact. Ensuite, il faut savoir qu'en Allemagne, ce sont les médecins en ville qui font les petites analyses biologiques, comme les prises de sang, les analyses d'urine. Pas besoin d'aller dans un laboratoire ou à l'hôpital. Donc on a plus facilement accès aux points de test ici. Il suffit d'aller chez le médecin, c'est plus simple, surtout pour les personnes âgées. Ensuite, il faut analyser les échantillons et là encore, l'Allemagne avait de l'avance. Elle disposait avant la crise d'une centaine de machines nécessaires au traitement des échantillons. On appelle ça des plateformes. Et alors qu'il n'y en a que 900 sur toute la planète, l'Allemagne, à elle seule, en avait une centaine. En France, c'est une douzaine seulement. Et donc, ça va très vite dans les labos allemands et l'Allemagne compte même accélérer le rythme. La branche médicale du groupe Bosch a mis au point un nouveau test qui donne des résultats en 1h30, 2h. Il sera disponible la semaine prochaine et il va rendre tout le processus encore plus fluide. Les spécialistes pensent qu'on pourra ainsi réaliser 200 000 tests par jour.
Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1, l'Allemagne en avance et l'Allemagne qui recense à ce stade beaucoup moins de morts que la France, hein, 389 décès. En revanche, situation toujours très préoccupante en Espagne, plus de 800 morts à nouveau ces dernières 24 heures, plus de 7300 au total. Et en Italie, on a dépassé les 10 000 décès, 25 000 à l'échelle du continent européen. Ce soir, l'Europe regarde aussi d'un œil inquiet ce qui se passe en Hongrie, mais pour des raisons politiques, le Premier ministre Viktor Orban est accusé de profiter du contexte pour étendre encore ses pouvoirs. L'état d'urgence a été décrété pour une durée indéterminée.
Il n'y aura pas de Jeux Olympiques cet été, c'est pas une surprise, hein, on le savait, mais on connaît maintenant la date précise de leur report. Ils s'ouvriront à Tokyo le 23 juillet 2021.
Oui, soit pile un an, quasiment jour pour jour, après la date qui était prévue. C'est tout le calendrier sportif qui, du coup, va devoir s'adapter. Les mondiaux d'athlétisme, par exemple, qui étaient prévus à l'été 2021, sont repoussés, eux, à 2022. Les championnats du monde de natation devront, eux aussi, changer de date. Et puis, dans le foot, alors cela n'a rien à voir avec le confinement, cette fois, mais certaines choses ne changent pas, comme la colère de Karim Benzema, qui s'en prend à nouveau à l'équipe de France, lui qui n'est plus convié depuis 5 ans maintenant. Règlement de compte cette fois avec Olivier Giroud sur les réseaux sociaux. Jean-François Pérez.
On a retenu juste quand j'ai dit que j'étais la F1 et lui le karting. C'est ce que je pense et c'est la vérité et c'est comme ça.
On peut reprocher beaucoup de choses à Karim Benzema, mais pas celle de ne pas assumer ses propos. Comme ses amis rappeurs, l'attaquant ne crache pas sur un petit clash à l'occasion. Le succès est assuré, son public en redemande et voilà le travail. Cela lui permet de remettre une pièce dans le débat sans fin qui agite le foot français depuis sa non-sélection à l'Euro 2016 et la fameuse phrase « Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France », le joueur ayant oublié assez vite ses responsabilités de l'époque, les 12 matchs sans marquer le moindre but en sélection et l'affaire de la sextape pour laquelle il est toujours mis en examen. Depuis, Olivier Giroud est devenu un titulaire incontournable chez les Bleus malgré une carrière en club en pointillé, champion du monde, troisième buteur de l'histoire de l'équipe de France. La comparaison Formule 1 karting n'est donc pas très pertinente, sauf à prendre en considération des critères esthétiques, ce qu'a fait Benzema un peu plus tard dans la discussion d'hier.
Son style de jeu, il est bien pour l'équipe de France.
Est-ce que tout le monde aime ce jeu? Je ne sais pas.
Benzema, 32 ans, élément essentiel du Real Madrid, n'a jamais dit qu'il renonçait au bleu. Mais cet épisode désobligeant ressemble fort à une nouvelle sortie de route de la Formule 1 autoproclamée.
Jean-François Pérez du service des sports d'Europe. Voilà, ça vole très haut.
Oh là là, ça, petit échange, mais alors savoureux. Merci beaucoup Sébastien. Retour de l'info 18h30.
À tout à l'heure. Et